Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, d'abord deux petites notifications liturgiques. D'abord, n'oubliez pas qu'il y a les quatre temps cette semaine, donc mercredi, vendredi et samedi, 18, 20 et 21 décembre, donc il y a jeûne et abstinence. Abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont plus de 7 ans. Et jeûne, un repas par jour pour tous ceux qui ont entre 21 et 60. Puis pas aussi la semaine suivante, donc il y a aussi un dernier jeûne et abstinence pour l'avant-veille de Noël. Donc le 23 décembre, c'est aussi un jour de jeûne et d'abstinence, je crois que c'est le lundi de la semaine suivante. Aussi, je voudrais rattraper une erreur liturgique que j'ai faite la semaine dernière, ces personnes qui connaissent bien la liturgie qui m'ont fait la remarque, j'ai complètement oublié qu'il y avait une constitution 1955 du pape Pie XII qui précisait que les dimanches de l'Avent étaient prioritaires sur toute fête, quelle qu'elle soit. Et donc dimanche dernier, j'aurais dû dire la messe du deuxième dimanche de l'Avent avec la fête de l'Immaculée Conception qui aurait été transférée du 8 au 9 décembre. Mais c'était valide quand même, ne vous inquiétez pas. Je voudrais aujourd'hui parler un petit peu surtout de la magnifique épître de Saint Paul aux Philippiens qui est reprise dans dans l'intro 8 d'aujourd'hui, de ce troisième dimanche donc de l'Avent. Saint Paul nous donne un détail, il semble un peu bizarre, l'expression est bizarre, pourtant elle est très belle. Il nous dit qu'il nous faut faire connaître à Dieu nos demandes par la prière. Et il nous dit en introduction, ne vous inquiétez pas. Vous entendez, ne vous inquiétez pas parce que Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Il dit quand même qu'il faut demander. Bien que Dieu connaisse mieux que nous ce dont nous avons besoin, il nous faut demander ce dont nous avons besoin. Et il dit, c'est ça la prière. Donc une belle définition que saint Paul donne de la prière, faire connaître à Dieu les choses dont nous avons besoin. Comme nous sommes composés d'un corps et d'une âme, il est évident qu'ici saint Paul parle des choses dont notre âme a besoin. Et je pense qu'il faut faire attention, on ne peut pas commencer à faire immédiatement une longue liste des choses matérielles dont nous avons besoin. C'est selon ce que les gens font, surtout quelques jours avant Noël, ils pensent qu'aux choses matérielles. Noël, c'est la fête des cadeaux, alors ça devient, il n'y a plus que ça qui reste. On commande. Et on oublie complètement que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous ressemblons à Dieu, nous avons été créés à son image par notre âme, pas par notre corps. Et donc, peut-être qu'au lieu de faire une longue demande au bon Dieu de ce dont nous avons besoin, il faut dire au bon Dieu, écoutez mon Dieu, puisque vous êtes Dieu, vous connaissez tout, vous savez exactement ce dont j'ai besoin. Donc je veux tout simplement ce que vous voulez pour moi. Par avant, j'accepte votre volonté. Et si telle est notre façon de concevoir les choses, si on peut se mettre à genoux devant le bon Dieu en disant, voilà mon Dieu, je demande ce qui est le mieux pour moi. Moi, je ne sais pas très bien ce qui est le mieux pour moi, mais vous le savez, alors par avant, j'accepte. Et c'est la seule façon d'être heureux. C'est pour ça que saint Paul nous dit, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous êtes capable de dire, c'est vrai pour moi aussi, là. À partir du moment où nous sommes capables de dire au bon Dieu, mon Dieu, voilà, je demande ce qui est le mieux pour mon âme, même si je ne comprends pas. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand on comprend tout ce qu'il nous demande. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il ne nous demande que des choses qui nous plaisent. Mais il faut savoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, même quand on ne comprend pas ce qu'il nous demande, mais de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, même quand il nous demande des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc qui avait dit au bon Dieu, écoutez, moi je suis prêt à tout donner, mais si possible pas le feu. Eh bien le bon Dieu a voulu qu'elle soit brûlée. Parce qu'il a voulu que son sacrifice soit accompli au moment précis où humainement parlant tout était perdu, elle était brûlée vive. Sur la place du marché à Rouen, le 30 mai 1431, eh bien, à cet instant précis, elle avait rempli sa mission. Elle boutait les Anglais hors de France pour protéger la France du protestantisme. Et donc, il nous faut aussi appliquer, nous appliquer ce conseil de Saint Paul, tout mettre entre les mains du bon Dieu, que lui-même choisisse ce qui est le mieux pour nous, et à ce moment-là, on aura la paix du cœur. Ne vous inquiétez pas. Et l'épître est repris dans l'introïde d'aujourd'hui, et la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est la joie. Gaudete in Domino Semper. Réjouissez-vous en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle ce dimanche, le dimanche Gaudete. Et pour bien manifester cette joie, l'Église donne aujourd'hui une exception liturgique. J'ai vu que malgré le fait qu'on soit en Avent, il y a des fleurs aujourd'hui. Le troisième dimanche de l'Avent, comme le quatrième dimanche de Carême, il y a des fleurs sur l'autel. Vous nous rappelez justement que bien que nous sommes dans un temps un peu de pénitence, l'Avent c'est un temps de pénitence, c'est pour ça que le prêtre utilise la couleur violette pour les vêtements liturgiques, la couleur de la pénitence, et bien malgré ce temps de pénitence, c'est un temps de pénitence joyeux parce que c'est une pénitence qui nous amène à la porte de la crèche, donc à l'entrée de la crèche, et donc c'est une pénitence qui nous amène à la possession de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Paul continue en nous disant justement que la deuxième conséquence de cette joie, ça sera la paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui va descendre en nous. Donc si j'accepte de la volonté du bon Dieu, j'aurai la paix et la joie. Et les choses que le monde moderne est incapable de donner. Le monde moderne ne peut pas donner cette paix. Cette paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est une paix pour notre âme, une paix beaucoup plus profonde que la paix dont le monde par la longueur de journée qui est incapable de donner. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Saint Thomas d'Aquin, c'est une belle définition. Il dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. La paix, c'est l'ordre. Le démon a introduit dans l'âme d'Adam et Ève un désordre. C'est ça le péché originel. Le péché originel introduit un désordre, non seulement dans l'âme en général, dans chacune des puissances de notre âme. L'intelligence est en désordre, la volonté est en désordre, l'irascible et concupiscible, c'est en plein désordre. Alors, il faut rétablir justement cet ordre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette tranquillité de l'ordre? C'est la soumission des choses. Les passions qui sont soumises à la volonté qui est soumise à l'intelligence, et l'intelligence qui est soumise à Dieu. Et donc, lorsque notre intelligence est soumise à la volonté du bon Dieu, on trouve la paix, on trouve la joie, on trouve l'ordre. Au contraire, pour le monde moderne, ce sont des choses que je vous explique, c'est des choses que le monde moderne est absolument incapable de saisir et de comprendre. Parce que pour eux, la paix, c'est la liberté de faire ce que je veux. Ils se rendent même plus compte qu'en introduisant justement cette liberté dans l'esprit de l'homme pour qu'il puisse faire ce qu'ils veulent, ils introduisent précisément le désordre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient été placés dans le paradis terrestre par le bon Dieu, et le bon Dieu leur avait donné le libre arbitre. Et ils l'ont mal utilisé, ils ont voulu utiliser cette liberté pour devenir comme Dieu, et du coup ils ont tout perdu. Ils ont perdu les dons préternaturels, ils ont perdu le paradis terrestre, ils ont tout perdu, parce que justement, utilisant de façon mauvaise cette liberté, ils ont introduit le désordre dans leur âme. Voilà ce qu'il nous faut, mes bien chers frères, comprendre. Et c'est ça le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est quoi? C'est un temps qui va nous aider, si vous voulez, à canaliser le bon usage de notre libre arbitre. Le bon Dieu, encore une fois, ne nous a pas donné un libre arbitre pour faire ce que nous voulons. Le bon Dieu nous a donné un libre arbitre pour choisir le bien, nous mouvoir dans le bien. C'est le pape Léon XIII qui définissait ainsi la liberté. La possibilité, le pouvoir que nous avons de nous mouvoir dans le bien. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est la deuxième définition très belle de saint Thomas d'Aquin. La liberté, c'est simplement le pouvoir que j'ai de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui m'est imposée par Dieu. Et quelle est cette fin qui m'est imposée par Dieu? Aller au ciel. Je suis créé pour ça. Je suis créé pour aller au ciel. Et comme les différents moyens d'aller au ciel, les moyens que vous utilisez dans le monde pour aller au ciel, pour vous, si vous êtes marié, le moyen d'aller au ciel par le mariage n'est pas le moyen, par exemple, qu'un célibataire va utiliser ou qu'un prêtre va utiliser. Chacun a une voie différente pour aller au ciel. Mais il faut que la voie que nous avons choisie, librement, amène au ciel. Si ce chemin que nous choisissons n'amène pas au ciel, à ce moment-là, c'est la catastrophe qui arrive. Et c'est pour ça que, en parlant de Saint Jean-Baptiste, il est dit que Saint Jean-Baptiste prêchait de redresser les voies qui mènent au Seigneur. C'est quoi la voie qui mène au Seigneur? La voie qui mène au Seigneur, c'est justement cette voie que j'ai choisie pour arriver à la crèche. Et si je prends un chemin qui ne m'amène pas à la crèche, je ne risque pas d'y arriver. Et donc, je dois justement avoir cette... utiliser correctement ma liberté pour redresser les voies du Seigneur. Les pères de l'Église font remarquer avec raison que redresser les voies du Seigneur, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les chemins tortueux, c'est le symbole de la volonté du démon. Le démon est tortueux dans son esprit parce qu'il veut tromper les gens. Il veut empêcher les gens d'arriver au bon port. Et donc, il va faire des tas de virages de tous les côtés dans le chemin pour nous empêcher d'arriver là où il faut arriver. Eh bien, il faut mettre des lignes droites qui mènent droit à la crèche. Et si on a ces lignes droites qui mènent droit à la crèche, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir juguler notre volonté propre, la canaliser, si vous voulez, pour nous permettre d'aller au ciel. On est sur une route dangereuse de montagne, il y a des virages de tous les côtés, mais qu'est-ce que font les ingénieurs? Ils vont mettre de chaque côté de la route des barrières de sécurité. Alors on pourrait dire, comme les modernes, mais les barrières de sécurité, ça m'empêche de faire ce que je veux. Ben évidemment, ça vous empêche de précipiter la voiture dans le ravin. Voilà ce que ça fait. La barrière de sécurité vous oblige aussi à rester sur le bon chemin. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Le bon Dieu nous met des barrières de sécurité, nous rappelle justement par les commandements, voilà ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Mais il faut y aller librement. Alors quelqu'un qui dit, moi j'utilise ma liberté pour faire ce que je veux, je ne veux pas suivre les lois du bon Dieu, eh bien vous allez introduire le désordre. Et les gens ne se rendent même plus compte qu'en introduisant ce désordre de la volonté propre dans leur vie de chaque jour, non seulement ils ratent le coche, ils vont rater le ciel, mais ils vont introduire l'enfer dès ici-bas. Regardez le monde moderne. Le monde moderne, c'est ça. Le monde moderne, c'est devenu un enfer dès ici-bas. La semaine dernière, j'étais à Nantes et j'ai bien vu encore dans cette ville qui est devenue la deuxième ville la plus dangereuse de France après Marseille, je crois. Maintenant, c'est des attaques tout le temps, des viols partout, des tags partout, tout est sale, tout est dégoûtant. On sent que le désordre s'est introduit. Pourquoi? Parce que le monde a complètement disparu de la ville, ou presque. Mais attention, il y a une condition. Pour pouvoir se maintenir sur ce chemin qui mène au ciel, sur ce chemin qui mène à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas que la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la première étape. Hein. Première étape, c'est quoi? C'est Bethléem. Deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, c'est le calvaire. Et la troisième étape, c'est le ciel. Donc il faut d'abord s'introduire dans la crèche, aller adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, prendre l'enfant Jésus dans la crèche. Deuxième étape, c'est notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son âme et sa divinité qui se donne à nous par la Sainte Communion va donner la force de monter gravir le calvaire, d'aller à la croix. Et à ce moment, on prend la croix, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui a voulu être crucifié dans son humanité, on prend la croix et cette croix nous amène au ciel. Mais il y a une condition qui est bien explicitée dans l'évangile d'aujourd'hui, l'humilité. Saint Jean-Baptiste qui dit « Je ne suis même pas digne de toucher, de dédier la croix de sa sang. » C'est l'esclave qui enlevait les sandales du voyageur pour laver ses pieds. Bien, il n'est même pas digne de toucher, de délier la courroie de la sandale de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne croyons plus malins que tout le monde. Il faut avoir cette humilité. Moi aussi, je ne suis pas digne de toucher la courroie, la sandale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ accepte de venir dans mon âme, de se faire tout petit, se cacher sous l'apparence du pain et du vin, se cacher sous les voiles eucharistiques pour venir nourrir mon âme avec son corps, son âme, son sang, son âme et sa divinité. Et le plus beau cadeau que nous puissions faire à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement de nous préparer par une bonne confession avant Noël, justement pour pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, pas simplement le recevoir, il faut utiliser en quelque sorte la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Mais la condition, c'est l'humilité. Les pères de l'Église ont une belle remarque, ils disent que la porte, l'entrée de la grotte de Bethléem, elle est basse parce qu'il faut s'agenouiller pour passer. C'était fait pour des brebis qui sont petites en taille, et donc il faut que le berger s'agenouille littéralement pour rentrer dans la grotte, à ce moment-là contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes comme des petits bergers, ben, il faut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ avec humilité. Alors le bon Dieu nous donnera toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver non seulement à tenir le coup dans le monde moderne, mais à être cette lumière du monde, ce sel de la terre que nous devons être. Plus que jamais aujourd'hui, dans un monde qui est complètement déboussolé parce qu'ils ont perdu le nord littéralement, il faut que les rares catholiques qui ont conservé la foi dans le monde entier soient des petites lumières qui brûlent. C'est pas grand-chose une lumière. Mais vous êtes perdu dans une forêt profonde en pleine nuit, il n'y a rien, on ne voit rien. Une petite lumière, on va vers la lumière parce qu'au moins il y a on peut se réchauffer auprès de la lumière, on peut se diriger avec la lumière. Donc il faut demander cette grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, surtout cette grâce de l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui le disent trop souvent, parce que on vit dans un siècle abominable. C'est vrai qu'on vit dans un siècle abominable, mais aussi on vit dans un siècle dans lequel les catholiques peuvent devenir des héros. On vit dans un siècle où on peut devenir des héros, comme ces enfants Christéros qui manquaient sur leur âge pour joindre la guerre des Christéros et qui disaient à ses chefs, je veux devenir un Christéro parce que là, le ciel était vraiment un bon marché en ce moment. Ils avaient compris ça. Le ciel est un bon marché, une de leurs expressions. Et c'est vrai. Et il y a eu des milliers de martyrs. Ils sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ils mouraient tous. Vive le Christ roi, vive Notre-Dame de Guadeloupe. Eh bien, nous devons être pareils. Donc demandons avec humilité à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner toutes ces grâces. Donc par la prière de connaître toutes les... que Dieu connaisse par nos prières, qu'il connaisse tous les besoins dont nous avons, que nous cherchons, il faut avoir l'humilité de dire, voilà, j'ai besoin, je suis faible, donc j'ai besoin de force, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de tous ces dons du Saint-Esprit, surtout du don de sagesse, du don de conseil, parce que je ne sais pas très bien ce que je dois faire dans ma vie de tous les jours, comment je dois faire pour porter mes croix, et bien le bon Dieu me donnera aussi les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, et il me donnera par-dessus tout le jour de Noël, donc, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous préparer à toutes ces choses-là. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu venir tout seul sur la terre. Il est venu par un intermédiaire. Il aurait pu prendre une humanité de façon merveilleuse, de façon extraordinaire, miraculeuse. Et Dieu peut tout faire. Il a voulu passer par une femme. Il a voulu passer par une femme pour réparer le péché de la première femme d'Ève. Il a voulu passer par une autre femme, de même que les pères font remarquer que le péché était arrivé par une femme, la rédemption est arrivée par une femme. Et il a voulu passer par la très sainte Vierge Marie pour que cette Vierge pure, Immaculée Conception, justement, on nous dit c'est l'octave de l'Immaculée Conception, pour que cette Immaculée Conception, justement, nous donne ce grand, grand désir de rechercher la vérité. Rappelez-vous, cette remarque de saint Thomas d'Aquin, sa sœur qui lui demandait quelle est la première condition pour aller au ciel. Et saint Thomas a répondu, le désirer. Un grand, grand désir du ciel. Je pense que c'est certainement la grâce à demander pendant ce temps de préparation de Noël, le désir du ciel. Avoir en nous un grand désir du ciel, et puisque toutes les grâces passent par la très sainte Vierge Marie, bien, il faut passer par elle pour garder en notre cœur ce grand désir du ciel. Et évidemment, il y a des conditions pour avoir le ciel. Hein. Condition pour le ciel, c'est l'état de grâce. Donc il y a un grand désir du ciel, il y a un grand désir d'état de grâce pour nous protéger, avoir cette armure à temps et à contre-temps, cette armure que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.